Jupiter, c'est encore meilleur en direct, du lundi au vendredi à 17h sur France Inter.
Dans les couloirs de la maison de la radio, près du bureau d'affaires sensibles.
Salut les rigolos. Alors, vous avez fait combien ce mois-ci?
Hein, combien de quoi?
Combien de téléchargements de podcasts?
Oh là, je sais pas, moi. Pour moi, c'est pas ça qui compte, tu sais, c'est plutôt le contenu.
Ah oui, le contenu. Ouais.
Mais pour moi aussi, évidemment. Enfin, bon, quand même, 66 millions.
66 millions? Mais c'est la totalité de la population française.
Mais oui.
Eh bien, je crois que chaque Français m'écoute religieusement.
Non, mais ça va. Je te rappelle qu'on t'a pas attendu pour faire une émission à succès.
Ah bah non, la preuve, aujourd'hui, je suis chez Michel Drucker.
Oui, alors ça, Alex, c'est pas un bon argument.
Bah, quand même.
Dis Fabrice, tant que t'es là, on a un dossier délicat que j'aimerais te soumettre.
Oui. Mmh. Une affaire sensible.
Oui, en effet, l'addiction.
L'addiction à quoi? Cocaïne, femme, éclair au chocolat?
Non, on te demande pas de nous parler de ta vie privée.
Non, l'addiction en deux mots. Tu sais, toi, Fabrice, tu prononces tellement bien les syllabes.
Je t'en prie. Si, t'es notre modèle à tous.
Non.
Ah si.
Tu crois?
Et si on t'appelle le pape de l'addiction?
Non, pas de flagornerie, s'il vous plaît, les amis.
D'accord. Bon, alors, Fabrice, comment est-ce que tu prononces le chiffre qui est juste après 7?
Ah, pas facile, hein.
Mais je peux pas répondre à cette question comme ça, moi, de but en blanc. C'est beaucoup de travail.
Non, mais c'est pas compliqué. On dit 8 ou on dit 8?
Mais pour moi, le plus important, ce sont les consonnes. Elles doivent sonner. Il faut qu'elles aient un écho radiophonique.
Radiophonique.
Voilà. Bon, mais les amis, je suis navré, mais moi, je dois filer. Faut que j'aille à l'aéroport.
Ah, il a fait une faute de prononciation. Il a dit aéroport.
Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, l'addiction de Fabrice Drouel.
France Inter, bienvenue dans la start-up de la radio publique, dont voici la devise du jour, chacun pour soi et l'iPhone pour tous. Et voici les trois dossiers tout frais du jour. 150 Français ont été tirés au sort pour former une convention citoyenne et trouver des solutions au changement climatique. Bonne chance à eux. Si cela vous laisse perplexe, dites-vous qu'il y a déjà là une innovation démocratique, dont voici le modus operandi.
Prenez n'importe qui, un homme dans la foule le plus anonyme possible. C'est un prétexte.
La PMA pour toutes ayant été adoptée en première lecture à l'Assemblée, ses opposants se réveillent. Ce week-end, un défilé est prévu. Attention, la manif pour tous est de retour. Dix livres sur Jacques Chirac sont sortis cette semaine et ce n'est que le début, il y en aura aussi de plus récents pour Noël. Alors est-ce que ça relève du protocole de l'hommage ou du protocole du commerce?
Au tempora, au mores.
Quoi?
C'est du latin, ça veut dire drôle d'époque.
Et voici celui qui est présent les jours pairs pendant les semaines impaires, mais qui à partir de lundi sera présent les jours impairs pendant les semaines pairs, sauf si nous sommes une année bisextile.
Bonjour, il s'agit Charlie de moi. Bonjour Charlie Douanonaker. Mais j'aime bien ne pas être attendu et puis débarquer. Vous êtes content de me voir quand même?
Oui, bien sûr.
Oui, mais cachez votre joie.
Je suis content d'être du lancement, surtout.
Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre? Bonjour, belle équipe.
Bonjour.
Attention, il y a du jeu de mots de qualité. À 17h20, celle qui, depuis la rentrée, nous explique des comptes, on saura donc peut-être enfin si le petit poussait était constipé, ce qui explique pourquoi il poussait. Bonjour, Isabelle Sorrente.
Bonjour, Alex. Bonjour, les amis. Non, aujourd'hui, je vais vous parler de cheveux, de problèmes capillaires, Alex.
Ne revenez que les semaines paires, finalement.
Pour Christine, il n'y a pas de jeu de mots, mais quand même. À 17h30, celle qui, en général, interviewe les morts en série, va donc cette fois interviewer les morts de série. Bonjour Christine Gonzalez.
Bonjour, exactement. Je vous parle aujourd'hui des sorties Netflix dans l'au-delà.
Très bien. Et jeu de mots, retour à 17h40, notre chroniqueuse littéraire, celle qui lit ses pages, mais pas n'importe quelle cépage, plutôt du Chablis. Bonjour Juliette Arnaud.
Bonjour Alex. Alors, je vais pas vous dire le titre de la biographie dont je vais vous parler aujourd'hui. Je vais vous lire le sous-titre. Parce qu'il a réussi sa vie en passant son temps à la rater. Pip et mon frère.
Très bien, suspense jusqu'à 17h40 et 17h55. Il y a deux semaines, il a rappé. On espère que cette semaine, il va déraper. C'est Frédéric Fromet.
Et voici celui dont vous serez très heureux de savoir qu'on va passer une heure en sa compagnie. Je vous laisse nous annoncer que vous êtes...
Patrick Braoudi.
France Inter, Charline Vanunacker, Alex Vizorek.
par Jupiter.
Bienvenue Patrick Braoudet.
Merci, merci de votre accueil.
Mais avec joie, vous êtes sur scène, parce qu'on vous connaît, acteur, réalisateur. Et là, vous êtes au théâtre, dans Père ou Fils. Vous avez le téléphone qui
sonne. Alors, c'est rigolo,
dans tous les sens.
Parce que quand je suis allé le voir, son téléphone a sonné et il n'était pas dans sa poche.
Ah non, c'est une montre.
C'est la montre, oui.
Ah, vous avez une montre connectée.
Et j'ai le machin.
Oh là là.
D'accord.
C'était mon anniversaire il y a très peu de jours et c'était mon cadeau d'anniversaire. Voilà,
ne la gardez pas sur scène.
Oui.
Pour jouer père ou fils de Clément Michel dans une mise en scène de David Roussel et Arthur Jugnot, où vous jouez avec Arthur Jugnot, Catherine Osmalin, Flavie Payan, Julien Personnez et Laurence Portail. Vous êtes en ce moment au Théâtre de la Renaissance. Alex Vizorek est allé vous voir.
Je suis allé à la première, grosse ambiance, c'était très sympa, très rigolo. Et je pense que pour vous, ça doit être pas évident, une première parisienne. Ça s'est hyper bien déroulé, mais je voulais, avant de parler de la pièce, vous demander, vos deux films qu'ont marqué, c'est génial, Mes parents divorcent, 9 mois, ici c'est Père ou Fils, est-ce que vous êtes un peu un passionné de la relation parent-enfant ?
Alors là, c'est pas moi qui ai écrit Père ou Fils.
C'est peut-être pas un hasard, ça tombe sur vous.
Oui, mais c'est vrai, quand j'ai écrit ces deux premiers films, je trouve que c'est des choses... qui touche beaucoup les gens, moi qui les relations de dans les familles, la grossesse, voilà, c'est des choses que tout le monde vit et on n'avait jamais parlé de la grossesse du côté de l'homme, parce que c'est vrai, quand j'avais écrit 9 mois, ça a été un film qui a marqué pas mal, parce que tout d'un coup on donnait un peu la parole aux hommes, et puis pour Génial, Mes parents divorcent, on donnait la parole aux enfants divorcés, qui étaient des moutons noirs à l'époque. Maintenant, ils sont majoritaires vraiment partout dans les classes, mais à l'époque, ils étaient très minoritaires et ils subissaient des petites moqueries de la part de leurs camarades, qui étaient compliquées, ouais.
Alors ici, on ne donne pas la parole à quelqu'un d'autre, on inverse la parole. C'est-à-dire que votre fils, Arthur Jugnot, est peintre, plutôt baba cool. Vous êtes politicien, vous vous présentez au municipal. On sent que la relation, elle est pas terrible entre les deux. Il y a cette phrase que j'ai notée, vous lui dites « j'aime pas ce que tu es en train de devenir ». Il vous répond « je n'aime pas ce que tu es ». Et les deux se disent « mais en fait, c'est pas facile d'être à ma place ». Et ouais. Puis, qu'est-ce qui se passe?
Et oui, c'est vraiment un père et un fils qui sont à l'opposé, qui se détestent, ils ont plein de raisons de ne pas s'aimer. Et le destin va leur jouer un tour. C'est comme ils s'aiment pas, ils vont être projetés dans le corps de l'autre, l'un et l'autre. Voilà. Donc le matin, le fils se réveille dans le corps de son père et le père se réveille dans le corps du fils, avec tous les tracas que ça peut causer à l'un et à l'autre.
Pour ceux qui auraient vu le film Volte-face de John Woo avec John Travolta et Nicolas Cage, c'est exactement le même système, c'est-à-dire que à un moment vous jouez Arthur Jugnot, mais c'est vous, vous êtes habillé dans ses vêtements. Ouais. Comment on bosse ça? Est-ce que ça se bosse à deux? Est-ce que ça...
Alors c'est très compliqué. Et la lecture au départ de la pièce était très compliquée parce qu'il y a marqué Bertrand qui est en fait Alexandre, Alexandre qui est en fait Bertrand qui redevient Alexandre. Il y a des moments où on était largués complètement. On se disait avec Arthur, mais attends, t'es qui là? Je suis qui? Je suis le jeune dans le corps du vieux. Ça a été très complexe au départ. Et puis quand on a eu les costumes, alors la casquette sur la tête ou le costume et la cravate et la rosette, tout d'un coup ça devient beaucoup plus fluide. On voit tout de suite qui est qui.
C'est très clair.
C'est clair, donc on sait qui est qui.
C'est très clair pour nous, public.
Ouais.
En revanche, c'est très peu clair pour les personnages autour. C'est-à-dire qu'il y a la maman donc d'Alexandre, d'Arthur Jugnot, qui est votre ex-épouse, qui pense vous parler à vous. En vous rappelant vos meilleurs souvenirs sexuels.
Absolument, alors que c'est son fils qui l'écoute.
Exactement.
Voilà, c'est plein de quiproquos comme ça qui sont très très drôles. C'est vrai que, effectivement, quand tout d'un coup, le fils fait tout pour que ses parents essaient de se revoir, parce qu'ils ne se voient plus. Donc il invite la mère, mais il est dans le père. Et tout d'un coup, il est dans le pêche. Il y a un moment, ils se disent, attends, faut arrêter de dire ça parce qu'on va finir en tôle. Exactement ça. C'est tous ces quiproquos qu'il y a dans la pièce. Et c'est vrai que tout d'un coup, elle se met à lui rappeler tous les bons moments qu'ils ont passés tous les deux. Et le fils ne veut surtout pas savoir ce qui s'est passé, évidemment, entre ses parents. Et de la même manière, Arthur, donc, il a une fiancée. Et puis, je viens l'embrasser. Forcément, il y a des quiproquos comme ça où il est horrifié. Je suis horrifié de relations.
De ce qui se passe.
Ouais.
Vous qui êtes scénariste, réalisateur, vous avez dirigé des comédiens, vous avez écrit des scénarios. Ici, vous êtes l'instrument. C'est même Arthur Jugnot qui co-met en scène la pièce. Mm-hmm. Comment il est à diriger et à gérer Patrick Braoudet comme comédien?
Moi, j'adore, quand je suis comédien, je l'ai fait dans plein de films aussi, j'adore ce moment-là, de me laisser vraiment porter par le metteur en scène, aller dans sa direction, l'écouter, même si des fois je suis pas d'accord, mais en même temps, ça m'intéresse de savoir où il veut aller, même si à la lecture, j'ai pensé à autre chose. Et non, je suis un instrument docile. Et j'aime ça parce que justement, c'est du repos par rapport au moment où on fait un film où là, on doit en prendre en main tout, et les acteurs, et les décors, et la mise en scène. Au contraire, quand on est juste acteur, pour moi, c'est un moment très agréable.
Vous amusez.
Ouais.
Et ça se voit.
Ça se voit donc dans Père ou Fils. Patrick Braoudet joue aux côtés d'Arthur Jugnot. C'est au Théâtre de la Renaissance. Si vous passez par Paris, c'est vrai qu'on parle beaucoup de théâtre en ce moment. C'est la rentrée théâtrale, donc on a l'occasion de recevoir des comédiens, des metteurs en scène. Alors, gageons que la pièce ira ensuite peut-être
se promener. Elle a commencé en
Tille,
la pièce.
À quel moment on sait ça, quand on va pouvoir aller sillonner la France?
En général, il y a toujours une tournée quand même qui est prévue. Après la tournée, l'importance de la tournée, elle dépend du succès parisien en fait.
Ah bah voilà. Alors les Parisiens, soyez solidaires avec le reste de la France. C'est au Théâtre de la Renaissance en ce moment. Patrick Braoudet avec nous jusqu'à 18h. Il y a également Christine Gonzalez qui était là hier pour notre émission avec Arnaud.
Elle est beaucoup là. Hein.
Bah elle est là les jours impairs,
oui,
inversement proportionnels. Voilà. Allez, on est ensemble jusqu'à 18h.
Danser comme un fou, comme ça pendant toute la nuit. J'ai pas résisté, elles m'ont dit tu vas craquer. Une fois arrivé, elles ne s'étaient pas trompées. J'ai jamais vu ça moi, une villa comme ça. J'ai jamais vu ça moi, une vie comme ça. Et j'ai dansé, je me suis défoncé comme un record endiablé. Puis mais sans arrêt, je regardais ses beautés. Elle me souriait, je n'arrivais pas à parler. Puis elle est sortie, alors là je l'ai suivi. J'avais l'air de quoi là? Comme ça, j'avais l'air de quoi là, à rougir comme ça.
Avec Star Shooter, Betsy Party, à mon avis, Chewbacca s'est dit, le vendredi, il faut leur mettre un petit coup de... Il est 17h21 sur France Inter, c'est Patrick Braoudet qui est avec nous. Il est au Théâtre de la Renaissance en ce moment, dans Père ou Fils, et pour accompagner Patrick...
Mais que des femmes. On a Juliette Arnaud, on a Christine Gonzalez, on a Isabelle Sorrent.
Et l'information, vous croyez
c'est
une femme,
femme
hein.
Parce qu'elle est insaisissable.
Évidemment, j'ai suivi très près cette façon, mais j'ai considéré que ma présence n'était pas dans le moment qui était celui-là la plus utile.
Le journal de presque 17h17.
Mon Dieu, ça pue encore plus ici.
Seigneur, je ne trouve pas.
Tu sens pas cette odeur de pourriture, là?
Ah oui, c'était bien Rouen.
Donc. Ouais, on commence par les titres.
Attaque à la préfecture de police. L'assaillant avait le sentiment de ne pas être considéré par sa hiérarchie, indique sa femme
qui est en garde à vue.
Oui, Charline, peut-être devrait-on profiter de cette information pour saluer le travail de notre stagiaire, Céline Dubois, qui fait un travail merveilleux et formidable. Et on espère qu'elle se sent considérée par sa hiérarchie.
Formidable, merveilleux. Ouais. Merci. Lors d'un débat sur les retraites à Rodez, Emmanuel Macron a assuré que le réchauffement climatique était au moins aussi important que les retraites.
Oui, enfin, si le réchauffement climatique continue, normalement, il n'y aura plus de problème de retraite.
Effectivement. Et les brèves ?
Pas de retraite pour les brèves. Ah. Oui, désolé.
C'est pas légal, ça.
On n'a pas trouvé un accord. Commençons par une éphéméride.
Oui, aujourd'hui, c'est la journée mondiale des animaux.
Journée mondiale des animaux, à l'occasion d'avoir une petite pensée pour tous nos compagnons à quatre pattes, les chiens, les chats, Juliette Arnaud en fin de soirée.
Sur l'attaque meurtrière perpétrée hier à la préfecture de police de Paris.
Oui, voilà. Selon un témoin, le tueur de la préfecture aurait crié à la Ouagbar la nuit précédente.
Oui, ce témoin policier a recueilli les propos d'un voisin du tueur selon Le Figaro.
Voilà, donc je résume, un journaliste du Figaro a recueilli les propos d'un témoin qui n'était en fait pas un témoin, mais qui a lui-même recueilli les observations d'un voisin qui affirme que le tueur, dont on nous a pourtant dit qu'il était partiellement sourd et muet, aurait crié à la Ouagba la nuit précédente. Voilà.
C'est donc ça. Voilà.
Alors, je ne sais pas si le tueur était un extrémiste musulman, mais ce qui est sûr, c'est que le téléphone du Figaro, il est arabe, lui.
Passons au président de la République. Lors de son grand débat sur les retraites, Emmanuel Macron a déclaré ceci.
Moi, j'adore pas le mot de pénibilité, parce que ça donne le sentiment que le travail serait pénible. Mais il y a des conditions de travail qui ne sont pas les mêmes.
Voilà, personnellement, je ne dirais pas que la condescendance d'Emmanuel Macron est pénible. Je dirais qu'il y a des conditions d'humilité qui ne sont pas les mêmes.
International. Donald Trump dément avoir voulu construire des douves remplies d'alligators à la frontière mexicaine et il déclare « Je suis peut-être dur, mais pas à ce point ».
Oui, cette déclaration qui a d'ailleurs été confirmée par Stormy Daniels.
Justice à présent. Le Français Karim Wali, soupçonné de meurtre et en cavale depuis 8 ans, a été repéré pour la première fois à Hong Kong.
Et bonne nouvelle pour Xavier Dupont de Ligonnès qui vient d'éliminer son principal challenger au championnat du monde de cache-cache.
Technologie, le premier smartphone pliable de Samsung, le Galaxy Fold, coûte 2020 euros.
Eh bien, à ce prix-là, ils peuvent le plier et se le carrer, on pense.
People, Céline Dion, actuellement, elle est malade, elle a annulé plusieurs concerts.
Triste période pour les amateurs de musique, puisque en pleine santé, Christophe Maé a maintenu les siens.
Oui. Météo, à Fontainebleau, la canicule et la sécheresse ont décimé la forêt.
Et ça va lui faire tout bizarre à Raoni quand il va voir le maire de Fontainebleau débarquer dans sa tribu pour demander de l'eau.
Et les brèves.
Et les brèves. Jean-Marie Bigard rejoint les listes de Marcel Campion, candidat au municipal à Paris. Mon seul but est de divertir le peuple, c'est tout, rien à foutre de la politique, a déclaré l'humoriste. À mon avis, lui, ce qu'il ambitionne, c'est un lâcher d'Hidalgo.
Et la dernière.
Et la dernière, dans le Jura, une quinzaine de collégiens ont été intoxiqués lors d'un cross après être passés au stand de ravitaillement. Sibeth Ndiaye a immédiatement réagi en assurant qu'elle aurait récupéré l'eau et les viennoiseries pour le petit déjeuner de ses enfants.
Merci Alex, il est 17h25 et c'est Patrick Braoudé qui est avec nous avant d'aller jouer au théâtre de la Renaissance, père ou fils. On va aborder ce premier thème, la Convention citoyenne pour le climat débute aujourd'hui. Elle est composée de 150 Français tirés au sort qui devront trouver les solutions que les politiques ne trouvent pas, en gros. Leurs propositions seront soumises au vote du Parlement, une innovation démocratique qui a été réclamée lors du grand débat. Autre grande innovation démocratique. Le tirage au sort, c'est bien sûr l'inattendu, c'est volontairement prendre le risque de tomber sur tout le monde et sur n'importe qui.
Nous aussi, on a des défis pour sauver la planète. Tous les 15 novembre, on a un défi qu'on relève avec Liliane, et ça dure un mois, et c'est pour la planète.
C'est pour la planète.
Ok, c'est quoi ?
Bonjour les nouveaux ! Oui ? Ah bah si, c'est pour la planète. Eh ben, c'est pas de la viande, c'est pas du poisson, si vous raisonnez bien. La bouteille, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle est consignée. Alors bon, ça va, elle est pas des déchets et des déchets. Elle est pour la planète.
Elle va être bien cette convention, on a bien fait tirer les gens au sort. Catherine et Liliane participeront peut-être, Alex Lutz et Bruno Sanchez. Si vous aviez été tiré au sort, Patrick Braoudé, est-ce que vous auriez accepté alors, il y a un défraiement, hein, c'est 86 euros par jour.
Il y a
les frais de transport, de restauration pris en charge. Il faut y consacrer 6 week-ends dans les 4 prochains mois. Daniel Cohn-Bendit, lui, avait été tiré au sort et il a dit « j'ai pas le temps ». Bon, alors vous allez me dire que le week-end, vous êtes au théâtre.
En ce moment, oui.
Ouais. Mais sinon, vous auriez peut-être accepté. Qu'est-ce que vous seriez dit quoi ? Est-ce que vous vous intéressez de près à la politique ?
Et à l'écologie aussi. Mais je crois qu'on, enfin, on sait ce qu'il faut faire. Ça fait longtemps qu'on sait qu'il faut fermer l'eau, qu'il faut pas tirer d'eau. Moi, j'ai fait des études véto. J'étais à l'école vétérinaire de Maisons-Alfort il y a très longtemps. Et à l'époque, il y a 40 ans. Et à l'époque, déjà, les profs nous disaient le gros problème à venir, c'est l'eau. Il y a plus d'eau dans la planète. Ça fait 40 ans qu'on dit qu'il faut fermer les robinets, qu'il faut pas laisser couler. Et les gens laissent. L'électricité, on sait très bien. On sort d'une pièce, faut éteindre. Enfin, tout ça, on sait ce qu'il faut faire. Mmh. Ça fait longtemps. Mais les gens le font pas. Ils vivent leur vie, machin. Ils s'en foutent. Ils disent aux autres de le faire. Donc je sais pas si les 150 personnes vont trouver d'autres solutions que de fermer les robinets d'eau et de couper l'électricité, mais
ils en ont certainement d'autres, mais sur lesquels on n'a peut-être pas prise en fait.
Ouais, non, mais il y a
sur l'industrie, sur l'agriculture.
Ouais, on sait que ces gros bateaux énormes polluent terriblement pour amener des touristes au bout du monde. Voilà, les solutions, on les connaît, mais il n'y a pas de volonté politique vraiment derrière.
Vous trouvez ça curieux, cet essai démocratique de tirer des gens au sort, d'essayer qu'ils soient évidemment représentatifs d'une sorte de mini-France?
Il vaut mieux des gens déjà qui s'intéressent à l'écologie plutôt que de tirer au sort sur des gens qui s'en foutent, quoi. Parce que déjà, les solutions, c'est déjà des gens qui ont réfléchi et qui ont envie de faire bouger. Déjà, ça serait bien de prendre des gens qui ont envie plutôt que n'importe qui, quoi.
Quand le gouvernement français veut prendre un problème à bras-le-corps, il organise un Grenelle. quand le Grenelle, ça marche pas, il organise un plan Marshall. Est-ce que tout ça, ça a perdu un peu de son sens aujourd'hui? Et quand vous entendez qu'il y a un Grenelle contre les violences faites aux femmes, etc., vous dites, bon.
Non, je trouve pas que ça a perdu de son sens. D'abord, parce qu'il y a besoin de ces réunions, il y a besoin de ces réflexions. Non, je trouve que ça n'a pas perdu son sens du tout, c'est très important.
Dans la pièce, on comprend que le jeune fils n'aime pas la politique, n'aime pas le métier de son père, il vous trouve agressif, condescendant, tout ça. est-ce que vous pensez que c'est à l'image de la jeunesse d'aujourd'hui qui n'y croit plus?
Moi, j'ai l'impression que la jeunesse aujourd'hui, elle est beaucoup plus politisée qu'il y a 10 ans. J'ai l'impression que ça revient, qu'il y a à nouveau cette volonté de d'être présent dans la politique qui avait disparu.
Non, mais peut-être plus de manière massive que dans la croyance en un homme.
Ou une idéologie.
Oui, parce qu'il y a eu beaucoup de déceptions sur plein d'idéologies, des choses qui n'ont pas fonctionné du tout. Et puis c'est vrai qu'il y a un phénomène nouveau qui, c'est les réseaux sociaux. Donc là, effectivement, il y a tout d'un coup des débats qui sont lancés, un peu dans tous les sens d'ailleurs. Il y a beaucoup de choses qui sont des fois n'importe quoi. Mais en tout cas, il y a des réflexions, il y a des réunions, il y a des choses qui bougent beaucoup. Ça a changé profondément la vie politique, les réseaux sociaux. Ouais.
Et puis les jeunes sont les premiers à descendre dans la rue pour défendre le climat, ils sont très politisés. Et il y a des jeunes, bien sûr, qui ont été tirés au sort dans cette convention citoyenne pour le climat, dont on attend de voir quelles sont les propositions, bien sûr. 17h30 sur France Inter, Patrick Braoudé, chers auditeurs, c'est le moment d'Isabelle Sorante.
Oui, alors comment les coiffer lorsqu'il pleut? Faut-il les laisser pousser ou pas? Les teindre ou pas? Est-ce que le blond abîme? Si nos cheveux sont l'objet de conversations dramatiques ou futiles, les légendes ne laissent aucun doute. Les cheveux représentent la force vitale, comme ceux de Samson coupés par la traîtresse Dalila ou ceux de la princesse Réponse coupés par la sorcière. Quant à leur couleur, le blond ou plutôt l'or, les cheveux d'or, Juliette, sont le symbole d'un pouvoir magique. Quelque chose que le héros ou l'héroïne doit parfois dérober sur la tête d'un animal sauvage, à moins bien sûr que la blondeur naturelle de la princesse ne soit le garant de sa séduction et de sa bonté d'âme. Les cheveux noirs, quant à eux, indiqueraient plutôt un karma familial lourd à porter. Un obscur secret des origines, comme les cheveux de gitan de Heathcliff dans Les Hauts d'Hurlevent, ou les cheveux noirs et le teint pâle de Blanche-Neige. Les cheveux roux sentent le pacte avec le diable. Quant aux cheveux châtains, qui sont pourtant les plus répandus, on n'en parle pas beaucoup dans les contes, trop normaux sans aucun doute. Aujourd'hui, le cheveu n'a rien perdu de sa signification symbolique, même si les légendes contemporaines ressemblent à de pleins paniers de préjugés. Pour le constater, il suffit de regarder quelques publicités. Vous le remarquerez lorsqu'il s'agit de vanter un produit ménager, les prestations d'une société de service à la personne ou de nettoyage à domicile. La photo montre des femmes et quelques hommes aussi, Alex, car nous sommes au 21e siècle et l'empathie,
on a des cheveux,
le dévouement, l'esprit de sacrifice ne sont plus réservés aux femelles. Des femmes et quelques hommes, donc, mais tous étrangement bruns lorsqu'il s'agit de nettoyer ou de prendre soin des vieux. Alors, est-ce que cela signifie, Juliette, que les personnes blondes n'ont aucune empathie ni aucun esprit de sacrifice? Non, pas du tout.
Ce serait mal comprendre la profondeur du message publicitaire. Ce code capillaire veut-il nous prévenir que le Nord pollue pendant que le Sud nettoie ? Eh bien, non, non plus. Ce que l'oracle publicitaire nous dit dans sa sagesse et sa grandeur, c'est tout simplement que les blonds regardent l'affiche pendant que les bruns gardent les enfants ou passent l'aspirateur. Dans le monde publicitaire, les blonds sont riches et les bruns sont pauvres. C'est une sorte de convention, comme la jupe du petit personnage sans yeux ni bouche qui indique les toilettes des femmes. Pourtant, c'est faux. Hein. Nous connaissons tous des femmes en pantalon, des blonds fauchés et des bruns pleins aux as. La photo raconte autre chose, elle raconterait tout simplement quelque chose si un employé blond aux yeux bleus couvait d'un regard attendri une vieille femme au regard sombre. Mais non, 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 cette version de l'histoire est censurée, comme le passage où le prince se crève les yeux sur des épines dans le conte de réponse, un passage censuré par Disney. Certaines choses sont trop cruelles pour le consommateur. Alors, il y a aussi des publicités dont le héros est volontairement brun, du moins avec des cheveux ondulés, no bet, no game, ça vous dit quelque chose, ce sont les applications de Paris. Alors en général, si vous avez vu les affiches, elles semblent oublier que l'addiction au jeu et l'addiction tout court peut aussi frapper les blonds. Là encore, un jeune homme blond roux avec une raie sur le côté et un costume en tweed fixant l'objectif d'un air illuminé après avoir flambé tout l'argent de son père dans un geste dostoïevskien aurait raconté quelque chose de romanesque et peut-être de plausible, mais ça n'intéresse pas la publicité. Enfin, il y a les châtains. Alors, les châtains sont très présents dans les publicités pour sites de rencontres et pour crédits immobiliers, parce que là, il s'agit de démontrer que tout le monde est concerné. Et c'est vrai, tout le monde est concerné par l'amour et l'argent, et tout le monde s'identifie au héros châtain. Mais pourtant, pour le crédit immobilier, la photo montre le plus souvent un homme châtain serrant la main d'un banquier homme, châtain lui aussi, qui lui tend d'un geste viril et fraternel la clé de la maison, pendant que la femme châtain sourit, éperdue de reconnaissance, un petit peu à l'arrière-plan. Tout cela pour vous dire que les contes les plus merveilleux restent encore à inventer.
Wow. Isabelle Sorrente, merci pour votre démonstration hebdomadaire et si brillante.
Il est
17h34 sur France Inter. Vous avez parlé des cheveux noirs, les Black Puma, je ne sais pas si vous connaissez, Chant de Fire, si vous ne connaissez pas. Voilà, c'est une découverte. C'est la playlist, ça, non ? Sûrement.
De toute façon.
On va demander à Djoubaka. Vous écoutez France Inter et c'est vendredi. C'est presque le week-end. Enfin, pas pour Patrick Braudet, parce qu'il joue tout le week-end au théâtre. Ah, par oui. exemple, le week-end, c'est le samedi et le dimanche à 16h30. Ce soir, vous jouez à 21h au Théâtre de la Renaissance, Père ou Fils. C'est une pièce de Clément Michel dans une mise en scène de David Roussel et Arthur Juniaux, avec lequel vous partagez l'affiche, Patrick Braudet, ainsi que Catherine Osmalin, Flavie Péan, Julien Personnaz, Laurence Porteil. Voilà pour votre équipe.
Ouais, une super équipe. On s'entend très très bien, et c'est des acteurs que j'ai découvert et qui sont formidables.
C'est la première fois que vous jouez.
Ouais, ouais. Pas Catherine Osmalin. Avec Catherine, on a joué une pièce de Woody Allen, Meurtre mystérieux à Manhattan l'année dernière à Avignon. Et après en tournée, on a vraiment une belle connivence tous les deux.
J'étais trop inédite.
Ouais. Mais tous les autres, je les connaissais pas. Et c'est super. Et c'est des gens très agréables. On s'amuse beaucoup tous. Ouais. On est heureux d'être sur scène ensemble.
Patrick Braudet, avec nous aujourd'hui, comme tous les vendredis, elle nous vient de Suisse, Christine Gonzalez.
Nous sommes le 4 octobre, et j'ai envie de dire merci la vie, c'est la sortie de nouvelles séries sur Netflix. Oh. Et la sortie aussi de nouvelles saisons de séries cultes. Il ne faut pas croire que la passion des séries n'est qu'une affaire de vivants, dans l'au-delà aussi. Mmh. Les morts consomment énormément Netflix, enfin non, une sous-marque de Netflix qui s'appelle Deadflix. Et aujourd'hui, là-haut, c'est aussi la sortie donc de nouvelles saisons, avec bien sûr à l'affiche des disparus célèbres. Et, bande de vénards et de vénards, j'ai les bandes annonces. Ouais. Vous voulez en écouter une première?
Bien sûr.
Oui.
Non,
oui. Et envoyez le générique, s'il vous plaît, soit.
Les demoiselles du téléphone, avec Jacqueline Maillon.
C'est moi, en chair et en os. Plutôt en chair, enfin, on va pas.
Des standardistes de l'au-delà vont créer des liens.
Elisabeth Taylor?
Oui.
Bonjour. Hello, Lisa. How are you? Fine, tant mieux. Where are you?
California.
San Francisco? Oh, I cannot come.
Well, first of all, it's kind of
astonishing. No. I am too occupied. Occupied. Comprends rien.
Hein?
Yes. 20 minutes. Si, I'll see you later. Bye.
La saison 5, dès aujourd'hui, sur Netflix.
Autant vous dire tout de suite, ça continue.
Les demoiselles donc du téléphone saison 5, très 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 attendue, mais peut-être pas autant que House of Cards saison 7, une série politique si palpitante qu'elle réveille les morts.
Je crois que dans la vie politique, il faut une part importante d'idéal et même un peu de rêve, et c'est de la poésie.
Un drame politique passionnant, emmené par un exceptionnel Georges Pompidou.
Le destin, pour moi, c'est un devoir.
Mais dans l'ombre, un homme n'a qu'un seul objectif.
J'y crois.
Lui arracher la présidence de l'au-delà.
Oui.
Georges Marchais.
Je pense que nous pouvons gagner. Il faut être sincère. Crois.
Et entre ces deux hommes, une autre lutte. Le cœur d'une femme.
Mon cul, oui.
House of Cards, sur Netflix.
Vous aurez bien sûr reconnu en guest star, Jackie Sardou.
Oh
dernière bande-annonce Netflix, à vous de deviner, si je vous dis Espagne.
La
Casa del Papel. Alors dans l'au-delà, la série a connu une légère réadaptation.
Le grand succès venu d'Espagne. La Casa del Papi.
Ne comprends pas le français.
Ils veulent tout faire exploser et organiser le meilleur braquage.
Mais ça fera du bruit, alors croyez-moi, là ça va faire du bruit.
Avec Louis de Funès.
Liqueur en or.
Garcimore.
De contraste.
Et El Professeur Salvador Dali.
Je commence à me préparer pour enfin déclencher ce qui n'est rien à côté des avions de bombardement. Deux avions de bombardement coûtent plus que le Velázquez.
La Casa del Papi.
Aïe, aïe, aïe.
Dès ce soir sur Netflix.
Alors je vous salue. Au revoir.
Donc si vous voulez accéder à ces séries Netflix, c'est très simple. Il vous suffit de souscrire un abonnement à vie, enfin à mort, et d'en profiter. À mort.
Merci Christine Gonzalez.
Je me trompe où la voix off dans l'au-delà est suisse.
Oui. Vous trouvez un petit accent?
Oui, léger.
Oui, mais il parle toujours lentement dans les bandes annonces.
Bah, exactement.
Merci Christine Gonzalez. On ne sait pas à quoi vous carburez, mais ça a l'air très très bon, on en prendrait volontiers. 17h42, vous écoutez France Inter. Notre émission s'appelle Par Jupiter, notre invité s'appelle Patrick Braudet. Et abordons cet autre thème, car c'est grillé pour le week-end à la boule, les enfants. Dimanche, la manif pour tous reprend du service. Suce à la PMA sans père. Haro sur la marchandisation des gamètes. Ludovine de la Rochère et ses troupes repartent au combat quelques années après la mobilisation contre le mariage homo. Attention, c'est un peu comme dans une chronique de Christine Gonzalez, j'ai l'impression. Attention, ils sont de retour.
Je n'ai rien contre les homosexuels, hein, on les aime, mais c'est contre nature. Hein. À l'âge de 10 ans, c'est un homme qui m'a appris à tricoter. Ma maman ne m'a pas appris à tricoter, elle ne savait pas. Et j'ai un très bon souvenir, hein, mais c'était contre nature, je m'en souviens toujours. Hein. Oh là là, c'est la décadence. Hein. Si c'est toi et voter, eh bien la colère de Dieu va s'abattre sur la France.
Michael Jackson et Marie-Madeleine sans doute, une dame qui était interviewée à l'époque par le Petit Journal dans la Manif pour tous, magnifique mixage de François Audouin, merci. Alors vous adorez observer et disséquer la société, Patrick Braudet. On l'a rappelé, on vous doit Génial mes parents divorcent ou 9 mois, on va y revenir. La PMA pour toutes, son corollaire, le retour de la Manif pour tous éventuellement ce week-end, ce sont des choses qui ne vous laissent pas indifférents, j'imagine.
Non, ça me laisse pas du tout indifférent. Moi, j'ai vu des gens passer au moment de la manif pour tous avec une haine, une violence terrible. Ça veut rien dire tout ça. La société française, la société en général d'ailleurs, elle a évolué énormément. On peut plus. Ils ont des t-shirts. On voit un papa, une maman et 2 enfants. Les familles, c'est plus ça. Il y a des femmes seules qui élèvent leur môme super. Il y a des hommes seuls qui élèvent leur môme parce que la mère s'est barrée. Il y a 2 femmes qui élèvent des enfants. Moi, j'ai 2 copains qui se sont mariés il y a pas longtemps ils avaient un désir d'enfant important. Ils ont adopté un enfant de 8 ans. Mmh. Cet enfant, il était à la DAS. Les assistantes sociales l'avaient condamné. Il avait dit, ce môme, il sera un délinquant. Il est violent. Et ils l'ont adopté. Et il est formidable, ce gamin. Je le connais. Je le vois souvent. C'est pas un délinquant. Donc, ça veut dire que l'important, c'est l'amour. C'est tout. C'est-à-dire que, à partir du moment où on a un désir d'amour, on veut transmettre de l'amour, qu'on a envie d'avoir des enfants, qu'on soit une femme seule, un homme seul, 2 hommes, 2 femmes, si on a envie de transmettre de l'amour à un enfant, c'est ça qui compte. Il peut y avoir des parents qui frappent leur môme, ça veut rien dire. Voilà.
Patrick Braudet, Génial mes parents divorcent, à l'époque, vous nous aviez dit au début de l'émission, parce qu'on parlait de votre pièce Père ou Fils, et on parlait des relations parents-enfants, etc. Génial mes parents divorcent, les gamins enfants de divorcés, il y en a beaucoup plus aujourd'hui qu'à l'époque du film. Vous avez eu affaire un peu au réac, au cato, parce que c'était génial, mes parents divorcent.
Oui, à l'époque, je me souviens, dans les journaux, il y avait certains journaux, il y avait des ligues catholiques, des trucs qui étaient scandalisés par le fait que je puisse associer génial et divorce, de dire le titre était honteux, génial, mes parents divorcent, c'est honteux de mettre ça. Enfin, on a eu des articles violents contre ce titre-là. Mmh. Oui, voilà. Alors que, effectivement, c'est de l'humour, et puis ça faisait du bien à tous ces enfants qui étaient de parents divorcés, de tout d'un coup avoir droit à la parole, qu'on les regarde, que et puis c'était les héros, tout d'un coup, alors que c'était des moutons noirs à l'école, là tout d'un coup dans un film c'était des héros, ils avaient le droit de parler, et vous savez c'est très bizarre, c'était mon premier film, Génial mes parents divorcent, et j'ai reçu un paquet de lettres, tous les matins le facteur arrivait avec un sac postal bourré de courriers d'enfants divorcés, ou de parents qui me remerciaient parce que ils avaient pu ouvrir le débat à la maison. Et je me disais, c'est incroyable, quand on est metteur en scène, le nombre de courriers qu'on reçoit. J'ai pas eu ça avec les autres films. J'ai eu ça qu'avec Génial mes parents divorcent.
Parce vous pensez pas qu'à cause de vous, il y a des parents qui se sont dit, on va le faire, ça va faire plaisir aux enfants. Et du coup, c'est la porte ouverte à tout. Monsieur Braudet.
Oui, ouais, je suis peut-être responsable de certains divorces. Non, mais oui, je sais que c'est un film qui a marqué beaucoup parce que il permettait un débat.
Ouais. Ce qu'on voit dans la pièce, c'est assez intéressant, c'est que chaque point de vue peut s'inverser. Ce que vous disiez sur effectivement l'éducation, qu'est-ce que c'est être un parent, qu'est-ce que c'est être un enfant aujourd'hui, et ça a évolué. Ça peut être une demi-solution de se mettre 2-3 jours à la place de l'autre.
Alors avec les problèmes que ça, hein, parce que dans la pièce, il y a beaucoup de problèmes. Mais c'est bien de se mettre dans la peau de l'autre pour comprendre les problèmes. Oui,
et à votre sens, c'est le plus difficile pour qui? Pour un enfant de voir ce que c'est que d'être parent, ou pour un parent de voir ce que c'est, de se rappeler ce que c'est que d'être un enfant?
Je crois que quand on est enfant, on ne sait absolument pas ce que c'est qu'être parent. Et que tout d'un coup, quand on a des enfants, tout d'un coup, on se dit, waouh, j'ai pas été super sympa parfois avec mes parents et tout. Et, je crois qu'on peut savoir qu'après seulement.
Parce que les enfants sont des égoïstes.
Juliette Arnaud,
excusez-moi, j'ai oublié ma voix intérieure.
Patrick Braudet à côté de vous, et pour nos auditeurs, Juliette Arnaud et son conseil littérature.
Allez, interrogation surprise, un quart de copie suffira, vous êtes prêts? Le 22 août 1850, le cercueil contenant quel écrivain français arrive au Père Lachaise avec Alexandre Dumas à sa gauche et Victor Hugo à sa droite? Tic-tac, tic-tac.
Allez. Balzac.
Oui.
Bien joué. Ah, Balzac, évidemment.
Oui, tout à fait, Balzac. Le papa de la comédie humaine, une paille, hein, juste 90 livres. Le papa de la cousine Bette, du père Goriot, de Ginny Grandet, d'Esther Gobseck, de la femme de 30 ans, de Racina, qui est rue Montbeaupré. Et je vais en laisser de côté. Question subsidiaire. Pourquoi Alexandre Dumas et Victor Hugo sont-ils au Panthéon, la maison des grands hommes, mort, et pas Honoré Balzac?
Alors, il avait divorcé, comme ça.
Vous aurez la réponse dans ce livre, qui est une nouvelle biographie de Balzac, qui s'appelle Honoré et moi. Oui, c'est une biographie de Balzac. Non, ça n'est pas la première, mais celle-là, vous allez galoper pour aller la lire, parce que voyez-vous, celle-là est écrite par sa meilleure amoureuse. Titiou Lecoq, né en 1980. Et si vous êtes en train de vous dire, ouais, nymphe, on peut pas être amoureuse d'un type mort 130 ans avant sa naissance, laissez-moi vous dire que si, on peut, voire même, on devrait. Titiou Lecoq aime et connaît les livres d'Honoré. Titiou Lecoq a fait comme tous les autres biographes, elle a cherché, enquêté, lui s'est livré sa correspondance, sauf que voilà, elle, Honoré, elle l'aime d'amour. Alors c'est le livre d'une amoureuse comme on voudrait tous être aimés. Définition. À la fois aimer sans mesure, mais avec clairvoyance. Aimer pour son meilleur et pour son pire. Et Honoré, franchement, en matière de pire, il cartonne. Mmh. Aimer avec humour. Et ça, c'est la grande merveille de ce livre. J'ai découvert qu'on peut rire beaucoup, beaucoup en lisant une biographie d'un monument de la littérature française. Sauf que le monument en question, Honoré, a foiré les deux seuls trucs qu'il voulait désespérément. Être aimé et être célèbre de son vivant. Mmh. Oui, comme Nabila. Comme une starlette. Ah, ça vous change de vos souvenirs de dissert, Balzac, une œuvre naturaliste ou réaliste, hein? Honoré voulait bien écrire matin, midi, soir en buvant des océans de café, mais il voulait aussi prendre une calèche chic pour aller parader dans des salons mondains avec à son bras une jolie femme, elle-même froufroutant dans plusieurs mètres de faille de soie. Parce que Honoré, eh ben, il vit à Paris, et je cite Titiou Lecoq, ici, c'est Paris, la ville où pour être, il faut paraître, il faut le dire cash. Honoré, il a un problème de physique. Passe encore qu'il soit à moitié édenté et court sur pattes. Mais on ne lui pardonne pas d'avoir le même visage que le charcutier du coin. Alors Honoré, eh ben, il compense. Il fait comme nous tous, il compense. Alors il met des sables de sapeur. Chez lui, il a une déco, on dirait celle d'une courtisane. Et tout ça, ça coûte un blé monstrueux. Alors il écrit d'autant plus. Et les gens de lettres l'appellent l'épicier. Et comme il est doué avec l'argent, comme Trump avec le maquillage nude, il est rapidement, et pour toute sa vie et pour toute sa mort, littéralement écrasé de dettes. Alors comment fait-il, Honoré? Et elle dit, solution ingénieuse face à ce problème délicat, il ne paye pas. De là, il noue une liaison très intime avec tout ce qui est huissier et gendarme. Honoré, il est pas fou comme un lapin, façon Gérard Nerval. Il a, et je la cite encore, un rapport compliqué aux restrictions impliquées par le principe de réalité. Voilà. Wow. C'est comme ça qu'une amoureuse voit les choses. Une amoureuse d'un homme mort, qui, rareté en son temps, et finalement dans le nôtre, accorde une importance immense à la sexualité féminine. On le dit écrivain des femmes, Honoré. Et proclame que l'institution du mariage est pourrie jusqu'à la moelle. Alors, Titiou Lecoq, elle écrit, au vu de ses lettres aux femmes qu'il a aimées, « Je pense qu'Honoré était un amant incroyable. Et moi, Juliette Arnaud, je la crois. Et physique de charcutier ou pas, eh ben, je vous jure que c'est vrai, j'ai rêvé d'Honoré et moi. Et on faisait la bagatelle. Et c'était super. Merci, bisous, merci. »
Juliette Arnaud.
Alors, ça s'appelle Honoré et moi. Franchement, si vous avez galéré sur Balzac, lisez ce bouquin et après vous aurez envie de relire tout Balzac.
Vous donnez envie de le lire.
Ah, mais lisez-le, je vais vous l'offrir. Ouais. Elle s'appelle Titiou le coq et la maison d'édition c'est L'Iconoclaste. Oh,
merci Juliette, merci beaucoup. Patrick Braoudet a le livre en main. Ah, peut-être vous aussi, très bientôt.
Je vais le dévorer. Ouais.
Oui. Et cette semaine sont aussi sortis 10 livres sur Jacques Chirac, sinon. Hein.
Vous l'avez pas. Bah, non.
Autant dire que Chichi était à peine froid que les imprimeries chauffaient déjà. Jusqu'où peut aller le cynisme d'un éditeur ?
Vous avez déjà vu un départ de fusée au Cap Kennedy, non ?
Non.
Eh ben quand je m'occupe d'un lancement, c'est pareil. Dans un mois, le succès. Dans un an, la gloire. Sur les affiches, les pochettes de disques, les porte-clés, les boîtes d'allumettes, les dépliants touristiques. Entre le Sacré-Cœur et la Tour Eiffel. Des centaines de millions à prendre. Et vous palpez 30% du gâteau.
C'est Bernard Blier, bien sûr, dans Bon baiser à lundi, un film scénarisé et réalisé par Michel Audiard. Donc, 10 livres sur Chirac sortent cette semaine. Il y en aura d'autres à Noël. Il y aura le chauffeur de Jacques Chirac, ses confessions. Non, mais c'est vrai, ça c'est prévu pour janvier. Hein, je vous donne le calendrier. Est-ce que c'est cynique, Patrick Braoudet, ou est-ce que ça ne l'est plus? Ou est-ce que c'est un cynisme accepté par la société, ou ça ne l'est pas?
C'est bizarre ce phénomène Chirac, en fait, quand il était au pouvoir, les gens le détestaient, trouvaient que c'était un feignant, qu'il faisait rien. Mais en même temps, il est devenu tellement populaire avec les marionnettes des guignols qu'on a fini par l'aimer beaucoup, aimer ses phrases, aimer ses petits trucs. Je crois que c'était un président finalement qui a été... Proche des Français, ça m'étonne pas que les gens aient envie de lire des choses
livres
sur lui. Ouais, je crois.
Vous avez incarné deux fois François Hollande à l'écran.
Trois fois.
Ouais, ah oui, la troisième, j'ai loupé. Alors il y a
Bernard Stora, un téléfilm de Bernard Stora, qui est la première fois. Après dans
la dernière film, campagne, c'était.
Dernière campagne, ouais. Absolument. Après dans un film d'Yvan Attal, ils sont partout. Oui. Et puis après dans un film de Clint Eastwood.
C'est celui-là que j'ai raté, ça, voilà, c'est fou. Ouais, d'accord. Ouais. Mais on vous avait d'abord dit que vous ressembliez à Jacques Chirac, c'est vrai?
C'est
la légende, ça?
Non, c'est vrai que quand j'étais plus jeune, j'avais un look un peu chiracien, mais il était beaucoup plus grand que moi. J'aurais pas pu. Les cheveux en arrière, ouais. Un peu gominés, que j'avais eu à un moment dans un film, les cheveux un peu gominés, et je faisais un peu chiracien comme ça. Mm-hmm. Ouais.
Les morts prennent beaucoup de place aujourd'hui dans les médias. En réalité, on fait des hommages très longs, on ressort plein de choses, au point que les gens interrogent aussi les journaux pour savoir les nécrologies de qui sont prêtes déjà, etc. Vous observez ça, que la mort prend beaucoup de place?
J'espère que ma nécrologie est pas prête.
Les rips. Alors figurez-vous qu'on apprend dans un article de Libération, Check News de Libé, les lecteurs demandaient quelles sont les nécrologies prêtes, et on apprend dans cet article que Jean-Luc Godard, qui est assez proche du journal, a demandé à lire la sienne il y a quelques mois. Eh ben, elle n'est pas prête. Voilà, sachez-le. C'était l'info.
Ça, ils lui ont dit.
Revenons au vivant. Qui est entré dans ce studio,
mais ne
Alex
ne me dites pas que c'est Frédéric Fromet.
Bah, si.
Déjà, ça veut dire qu'on est vendredi et ça, c'est pas mal. Mais en plus, qu'on va avoir droit à la chanson de fin. De quoi allez-vous nous chanter?
Allez, bah, cette semaine, une centaine de célébrités ont réclamé un plan d'urgence pour sauver l'hôpital. Les voici réclamant aussi un plan d'urgence pour sauver Rouen. Mal au cœur et mal aux yeux, les poumons ne vont pas mieux, la Normandie meurt peu à peu. Rien qu'une chanson pour eux les futurs cancéreux, comme si c'était pas suffisant d'habiter Rouen. Ils ont toujours connu la pluie, un ciel encombré, menaçant. Aujourd'hui, ils sont couverts de suie, c'est pas un grand changement. Les gens de Normandie, qui puaient le camembert jusqu'alors, il leur a suffi d'un incendie pour sentir encore plus fort. Mal au cœur et mal aux yeux, malgré Sainte-Thérèse de Lisieux, la Normandie meurt peu à peu, peu à peu. Même les vaches ne font plus meu, la Blanchette, ça la taraude, qu'on l'appelle depuis le feu, la Noiraude. Si un jour tu vas à Rouen parce que tu aimes bien les maladies. N'oublie pas de faire ton testament entre deux vomis. Si tu aimes la dioxine, le gazole, les hydrocarbures, les détergents, c'est une chance, l'usine Lubrizol t'en fait bouffer gratuitement. Mal au cœur et mal aux yeux, malgré le préfet heureux, la Normandie meurt peu à peu, peu à peu. Toi le Normand qui panique, si tu crois qu'on t'empoisonne, va sniffer en Martinique le chlordécone. Loin du cœur et loin des yeux, de nos vies qui valent si peu, la chimie tu peux à peu, peu à peu. Rien qu'une chanson pour tous les pollueurs qui salopent tout. Pire que vous, ordures, c'est vous, les gros dégueux.
Frédéric Fromet. Bravo.
Merci.
Merci.
Et merci pour les Rouennais et tous
merci
les autres.
Beaucoup. Merci beaucoup, Frédéric. Merci aussi à Patrick Braoudet, notre invité. On était très heureux de passer cette heure en votre compagnie.
Merci beaucoup.
Et on peut prolonger ce plaisir en allant vous voir avec toute votre belle troupe de théâtre au Théâtre de la Renaissance dans Père ou Fils. Merci beaucoup, Patrick Braoudet. Merci Isabelle Sorand, Juliette Arnaud. Merci Christine Gonzalez. Merci Alex Vizorek. Et merci à l'équipe qui prépare cette émission. Nos programmateurs et attachés de production, Nathalie Romero, Fabrice Rivaud et Sarah Masson, assistée de notre stagiaire Céline Dubois, notre associé à la production Ramzi Assadi, notre nouveau réalisateur qui tient le coup, manifestement François Audouin, programmation musicale Djoubaka, à la technique aujourd'hui Léo Prangère, Alexandre Chenet, à la vidéo radio-filmée Sandrine Laurent, à lundi où nous recevons Alex Baupin.
Sa croûte est bien dorée, sa pâte bien travaillée, bon comme du bon pain.